Donc, bonjour Édouard, merci beaucoup d'avoir accepté de vous asseoir avec nous. Comme on a discuté préalablement, cet entretien va surtout traiter la période de 1975 à 1995 où un peu on détermine un peu le commencement de la brisure des répliques et dans le contexte de l'ère de Spin.
Eh bien, écoute, merci de m'écouter. C'est un sujet sur lequel je suis à peu près universellement ignorant, mais j'aurai plaisir à en parler avec vous.
Oui, justement, dans ce contexte-là. Donc, je voulais quand même prendre quelques années de recul par rapport à cette fenêtre-là pour mieux comprendre un peu vos interactions sur ce sujet.
Oui.
J'ai lu quelques-unes de vos descriptions de recherche et de vos biographies, et dans lesquelles vous mentionnez que vraiment votre temps à Princeton en 1970-1971 a été très formateur et charnière dans votre carrière scientifique. Pouvez-vous un peu nous décrire le retour à Paris avec ces idées-là, comment ça s'est joué?
Bon, donc j'ai la chance accidentelle, en quelque sorte, d'être à Princeton dans cette année où Ken Wilson, qui est en visite à l'Institut de Princeton, est invité par l'université à faire un séminaire. Et Ken répond, moi, je ne peux pas exposer en un séminaire. Et David Gross, qui organise, lui dit, tu peux parler autant que tu veux. Donc, il fera 15 cours en réalité, auxquels assiste Princeton et qui pour moi vont être importants car effectivement le groupe de normalisation était une nouvelle façon de concevoir aussi bien la physique statistique et les phénomènes collectifs que la physique des particules, que ça a complètement changé les deux domaines. De retour à Paris, donc, puisque c'est là que vous m'interrogez, j'arrive à Saclay, j'appartenais au centre de physique théorique de Saclay. Mes collègues qui avaient entendu parler du groupe de normalisation me demandent de faire des cours, et ce qui m'embarrasse considérablement parce que si je savais comment faire des calculs avec la méthode de Wilson, j'avais du mal à en exposer les motivations et les principes. Et c'est là où, avec un collègue de Saclay, lui aussi de retour des États-Unis, qui s'appelle Jean Zilnestein, nous avons réalisé que, en utilisant un formalisme nouveau qu'avait développé pour la théorie des champs indépendamment Curtis Callan à Princeton et Kurt Zemanzig en Allemagne, nous pouvions, d'une façon qui nous paraissait rationnelle, exposer ce que faisait Wilson et retrouver, même simplifier, un grand nombre de calculs. Donc, c'est ça le début. Et je saute à l'été 1973, où j'organise une école de Cargèse à laquelle participent Wilson, Callan, Zimanzik, toutes les personnes qui travaillent dans le domaine, et Giorgio Parisi. Giorgio était tout jeune, il avait 25 ans, je l'avais vu une fois, mais je ne le connaissais pas vraiment. Et je l'avais invité, puisque j'étais organisateur, parce qu'il avait fait des travaux sur l'utilisation de ce qu'on appelle aujourd'hui le bootstrap conforme, une version ancestrale de ce qu'aujourd'hui pratiquent des gens comme Slava Rychkov et compagnie, et qui me paraissait très extraordinaire. Et Giorgio, tout jeune, pour la première fois, a fait des cours et a participé à une réunion internationale. Je crois qu'il n'avait même pas 25 ans. Je suis resté en contact avec Giorgio pendant cette époque et je vais sauter peut-être pour revenir à l'histoire que vous me demandez, je vais sauter jusqu'en 1979, où il y a de nouveau une rencontre à Cargèse, ce n'est pas moi qui l'organise, elle est consacrée au champ de jauge. Pour la physique, pour la théorie des champs, l'apparition de cette idée de champ de jauge, de liberté asymptotique, etc., avait été absolument fondatrice et les conséquences expérimentales commençaient déjà à apparaître. Donc nous étions tous excités pour des raisons diverses avec ça. mais les problèmes posés étaient considérables. On ne savait pas, on ne sait toujours pas d'ailleurs, expliquer le confinement des quarks, par exemple. Donc il y avait des problèmes extraordinairement difficiles. Et donc à cette réunion de 79, il y a de nouveau Ken Wilson qui parle des changements sur réseau. Ken avait inventé ça quelques années avant également, et Giorgio s'y était immédiatement intéressé. Et en 79, à l'école, il nous parle de champ de jauge et de lattice gauge theories, dans lequel je crois que déjà il avait en perspective le projet qui s'appelle APE, qui était le projet de construction par les physiciens d'un calculateur, d'une machine dédiée aux calculs et aux simulations de grandes dimensions, comme on en a besoin, en particulier dans les théories de jauge. Et donc, il ne s'agissait pas du tout de verre de spin. D'autres participants, comme Edward Witten ou Toft, nous parlent d'applications variées. Witten nous parle de la limite n grand, que Sun n grand, qui avait été explorée peu d'années avant par Toft. Et Toft nous avait montré que si on prend une théorie de jauge Sun n grand, dans lequel donc le champ est une matrice de taille n au carré, les diagrammes de Feynman dominants sont des diagrammes planaires, c'est-à-dire qu'on peut dessiner sur un plan sans intersection. Et c'est un article très célèbre de Toft qui a joué un rôle fondamental, sur lequel revient Edward Witten. Et il se trouve qu'en 1978, je reviens une année en arrière, Giorgio était en visite en France, à Paris, et donc souvent visiteur à Saclay. Et en particulier, nous avons discuté considérablement cette limite n grand avec d'autres collègues comme Claude Hitzickson, Jean-Bernard Zuber, et nous avons essayé désespérément de trouver une équation intégrale ou quelque chose qui nous permettait de résoudre la somme des diagrammes planaires de la même façon que dans les modèles vectoriels n grand, on sait très simplement résoudre en sommant une simple série géométrique de diagrammes. Et nous n'avons pas réussi, et nous avons commencé, avec Giorgio présent, à nous demander, mais combien est-ce qu'il y a de diagrammes planaires? Nous avons écrit un article qui a eu pas mal de succès d'ailleurs sur combien il y a de diagrammes planaires. Et c'est amusant parce que ça a été le début d'une activité que je n'ai pas poursuivie, mais qui a eu beaucoup de succès chez les mathématiciens, d'une combinatoire qui repose sur l'utilisation de grandes matrices, de matrices aléatoires. Donc, cet article, bien que en réalité ne réussissant pas là où nous voulions arriver, a eu plus de succès qu'attendu. Toujours est-il que à cette école de Cargèse de 1979, nous nous intéressons tous au champ de jauge, à la limite n grand, etc. Et c'est à ma grande surprise qu'un jour, en marchant de l'école jusqu'à l'hôtel, avec Giorgio, avec qui nous bavardions, il commence à m'expliquer ses conceptions sur le modèle de Sherrington-Kirkpatrick. Alors, ça me surprend énormément parce que c'était complètement sorti du paysage dans lequel nous baignions tous les gens de l'école, etc. Donc, je dois dire, je lui prête une attention médiocre, bien qu'ayant plein d'admiration pour les capacités d'imagination de Giorgio, ça n'était pas dans mon paysage de l'époque. En particulier, je m'étais beaucoup intéressé, Giorgio aussi d'ailleurs, à une nouvelle méthode pour arriver à calculer les grands ordres des séries de perturbations, qui était un outil qui nous paraissait indispensable pour arriver à faire de la théorie des phénomènes critiques une vraie théorie quantitative et pas simplement qualitative. Donc, nous avions donc tous d'autres préoccupations. Alors, je ne sais plus, là, ma mémoire se perd, je ne sais plus si j'avais connaissance du travail. Je connaissais le travail de Sherrington Kirkpatrick et je savais qu'en dessous d'une certaine température, la solution évidente était inacceptable. Elle conduisait à une entropie négative insupportable. Donc, je savais qu'il y avait un problème là, mais je n'avais pas vu que c'était la source d'une science nouvelle, en quelque sorte. Il y avait un travail de Blandin, et je ne sais plus si c'est Giorgio qui me parle du travail de Blandin qui lui avait servi d'inspiration, ou si je le connaissais, parce que Blandin travaillait à Orsay, à côté de Saclay, je le connaissais bien. Toujours est-il que Blandin avait essayé de trouver une solution du modèle SK par une brisure de symétrie des répliques, mais une brisure simple. Et là encore, je crois que Blandin montrait qu'on pouvait descendre dans le modèle SK à une température un peu plus basse, mais toujours pas, il y avait toujours une limite inacceptable. Et c'est donc Giorgio qui va montrer que si on itère à l'infini le schéma de Blandin jusqu'à briser indéfiniment la symétrie des répliques, on trouve une solution qui, a priori, est une solution physiquement acceptable. Malheureusement, elle est
Avant de continuer,
oui,
pouvez-vous baisser le micro un tout petit peu pour, je pense que votre menton le frappe juste 2 ou 3 centimètres. Parfait.
Voilà, est-ce que c'est mieux comme ça?
Parfait. Et avant qu'on continue aussi dans le temps, je voulais aussi revenir un petit peu en arrière. Si vous me donnez, je voulais avoir une idée de comment la communauté de mécastats à Paris, Saclay-Orsay, fonctionnait à cette époque. Est-ce qu'il y avait beaucoup de discussions? C'était très cloisonné? Comment est-ce que ça, pour la comprendre?
Écoutez, je vais un tout petit peu schématiser. D'abord, c'est une époque où la physique théorique, je reste sur la physique théorique, est surtout vivante à Orsay et à Saclay. Paris, à cette époque, n'avait pas vraiment de groupe théorique. C'est une longue histoire qui nous entraînerait trop loin de comprendre pourquoi il en était ainsi, mais il est clair que le grand Louis de Broglie n'avait pas su s'entourer. Et donc, tout était en dehors de Paris. Les contacts entre Saclay et Orsay étaient fréquents, nous avions souvent des séminaires en commun, mais le groupe d'Orsay, qui ensuite est venu à l'École normale, c'est le groupe auquel j'appartiens maintenant, s'intéressait surtout à la physique des particules. Les gens brillants qui étaient Bouchia, Iliopoulos, Meyer, Cherk, Neveu, etc., étaient tous des physiciens des particules, alors que Saclay avait traditionnellement plus de physique statistique. Il y avait des gens comme De Dominicis qui avaient fait des contributions importantes au formalisme de la mécanique statistique pour les systèmes quantiques, qui était important, Claude Bloch également, mais qui est mort très tôt. Roger Ballian également était un des grands. Et je distingue ça de la physique des solides ou de la physique de la matière condensée. Autrement dit, il existait une physique des solides, là encore à Orsay, dans le grand laboratoire que dirigeait Jacques Friedel, mais qui étaient surtout des vrais physiciens du solide, pas des gens de ce qu'on appellerait mécanique statistique aujourd'hui. Et à Paris, là encore, il y avait de la physique des liquides, mais il n'y avait pas de mécanique statistique. Donc, c'est plus l'influence des idées nouvelles, je dirais, qui a fait que le groupe de Saclay s'est développé autour de la mécanique statistique. Il y a eu des éléments plus jeunes, très brillants, comme Bernard Derrida, qui nous ont rejoints, d'autres qui avaient été des physiciens des particules comme Claude Hitzigson ou Jean-Michel Drouff, qui ont rejoint largement la physique statistique tout en s'intéressant à peu près à tout. Voilà, Zine Justin était un physicien des particules, mais le fait d'avoir tant contribué à la théorie des champs, des phénomènes critiques, d'une certaine façon, avait aussi fait de lui quelqu'un proche de la mécanique statistique. C'était mon cas également. Donc, voilà comment s'organisait la communauté. Il est clair qu'aujourd'hui, c'est très différent, qu'il y a eu à l'université à Jussieu, à l'école de physique et chimie, des groupes intéressés à la physique statistique très actifs. Donc, le paysage a complètement changé, mais à l'époque, il était assez petit et assez concentré. Voilà. Mais si je peux continuer, c'est une époque où le contact entre les disciplines, j'entends la théorie des champs aussi bien appliquée à la mécanique statistique qu'à la physique des particules, a été très fructueuse. C'est l'influence de quelques grands comme Polyakov, Giorgio lui-même, Parisi, et quelques-uns de ce genre-là, mais les groupes qui étaient exclusivement monothématiques ont été moins actifs à cette époque-là à cause de cette coupure. Si je prends un exemple connu, la division théorique du CERN était à Genève, était le plus grand groupe théorique en Europe, l'un des plus grands du monde, et pourtant ayant peu, pas du tout à cette époque, contribué au développement de ces idées nouvelles, y compris pour les champs de jauge. Voyez, donc ce sont plus des gens un peu pluridisciplinaires qui ont contribué, y compris, bien sûr, il ne faut pas oublier, dans ce qui s'appelait à l'époque l'Union soviétique, à l'Institut Landau en particulier, Polyakov, Migdal et de nombreuses personnes autour d'eux, Patachinsky, Pokrovsky, etc. Il y en a eu beaucoup. Plus tard, les frères Zamolotchikov ont été à la fois à cheval sur cette physique des particules et théorie des champs, mécanique statistique. Les sujets se sont un peu plus éloignés aujourd'hui, pas complètement quand même. Si vous voulez, on y reviendra à la fin de notre entretien, mais il reste des points de contact quand même.
Oui, merci voilà. pour cette vue d'ensemble. Une question un peu plus spécifique, disons, est-ce qu'il y avait quand même beaucoup de visiteurs, l'étranger, qui venaient? Je sais que vous voyagez. Oui.
Pas mal, c'était moins qu'aujourd'hui. Les financements ne nous donnaient que très rarement des postes de post-doc. C'était des choses rarissimes, une personne de temps en temps, très peu de bourses de thèse. Donc très peu de doctorants. En revanche, nous avions fréquemment des visiteurs étrangers. Ça, nous avions du financement pour faire venir des visiteurs et toutes les personnes dont nous avons parlé jusque-là ont tous été des visiteurs de Paris, de Saclay, etc. Donc ça marchait. Nous étions largement partenaires du système international.
Donc, okay. Dans un courriel récent que vous nous avez envoyé, vous avez mentionné que la réception initiale aux idées de brisure des répliques du groupe de Saclay était un de désintérêt et de doute par rapport à la validité.
J'ai caricaturé. C'était le cas des gens qui faisaient surtout de la théorie des champs, comme donc Zine Justin, Hitzigson, etc. Le fait de briser indéfiniment la symétrie ON avec N tendant vers 0 paraissait quand même un peu sauvage et du wishful thinking. Et donc, nous sommes restés pendant longtemps assez sceptiques dans l'attente de confirmation. De plus, comment vous dire, si j'essaye de me remémorer mes interrogations de l'époque, nous ne savions pas encore très bien si le sujet, c'était le désordre ou la frustration. Nous avions ces deux images. Est-ce que des systèmes régulièrement frustrés, sans désordre, étaient des vers ou pas des vers? Est-ce que les vers étaient des systèmes à l'équilibre ou hors d'équilibre? Est-ce qu'on avait le droit de les traiter par la mécanique statistique d'équilibre habituelle? Lorsque j'entendais des séminaires où on parlait de la pluralité des états, je ne comprenais pas très bien de quels états on voulait parler. Que vous dire? J'ai été très séduit tout de suite par l'image que donnait la solution de Giorgio de l'ultramétricité. Je trouvais que l'ultramétricité était une image très frappante, indépendamment de la solution mathématique explicite de ce que pouvait être la solution. On voyait bien que le paramètre d'ordre d'Edward Anderson était une possibilité. Néanmoins, il restait beaucoup de discussions. Alors, il y a eu des gens, à Saclay en particulier, qui ont été beaucoup plus constructifs que moi en particulier. En particulier Bernard Derrida. Bien sûr, Bernard Derrida a tout de suite essayé de prendre son fameux modèle de random energy et a montré que cette brisure de symétrie des répliques était une vraie mathématique pour la solution et donc a redonné d'une certaine façon du poids à cette idée de brisure de symétrie pour les répliques. Et puis est venu, alors je me perds un peu dans les années, est venu après évidemment le travail venu de Rome de Giorgio, Miguel, Virasoro et Marc Mézard. Là, il est devenu clair que cette méthode de la cavité donnait un sens explicite à des idées de champ moyen puisque le modèle de Sherrington-Kirkpatrick visait à reproduire la méthode bien connue du champ moyen, et c'était beaucoup plus conforme aux choses, et le fait qu'il retrouve la solution de Parisi était une force considérable. Mais il y avait sans arrêt lorsque j'écoutais mes collègues, puisque moi je ne travaillais pas, mais j'entendais sans arrêt des allers-retours. Alors, dans les allées vers Giorgio, il y avait eu le travail de Cyrano de Dominicis et Condor, qui avaient décidé qu'ils allaient appliquer les idées habituelles de la théorie des champs et du groupe d'ordre normalisation, qui faisait remonter à 6 dimensions l'étude de l'apparition éventuelle d'une transition vers deux spins. Et ils avaient montré, non pas la stabilité de la solution de Giorgio, mais sa non-instabilité. Ils avaient montré qu'à 6 dimensions, il n'y avait pas de valeur propre négative des fluctuations qui pouvaient détruire. Donc, ça allait dans le sens de Giorgio. En sens contraire, il y avait le travail de Hughes et Fisher et Hughes, bien connus, qui, lui, prétendait que, d'une certaine façon, la transition vitreuse était comme une transition ferromagnétique déguisée par des gouttelettes, bien sûr, mais de même nature, avec cette espèce d'inconnu qui était est-ce que la fameuse ligne de Almeida-Saulès était spécifique à la solution mathématique de Giorgio ou bien est-ce qu'on allait la retrouver dans un ver de spin ordinaire, tridimensionnel, puisqu'ils existent ou quasi existent expérimentalement. Donc, vous voyez, nous étions sans arrêt, même lorsqu'on essayait d'écouter sans… Moi, je n'avais pas je n'avais aucun intérêt investi dans une image ou dans l'autre, mais nous entendions sans arrêt des arguments qui n'avaient rien de déraisonnable des deux côtés. Donc, voilà l'espèce d'incertitude dans laquelle nous avons vécu pendant très longtemps. Puis après ça, alors je passe beaucoup d'années.
Avant de sauter à ces années ultérieures, est-ce qu'on peut... vous avez entre autres mentionné l'intérêt de Tirano de Menichis à ses idées plus tôt que plusieurs de vos collègues à Saclay, d'ailleurs, sur ça. Savez-vous pourquoi est-ce qu'il le percevait différemment ou comment... et quel genre de relation vous aviez avec Tirano à ce moment-là?
Ce sont des années où j'ai beaucoup collaboré avec Cyrano. Nous avons en particulier fait un certain nombre de travaux sur l'application des idées de groupe de normalisation à la dynamique des phénomènes, retour à l'équilibre de ce système perturbé. Cyrano était devenu un convaincu du groupe de normalisation et donc il se disait, eh bien, la théorie des champs va être le juge. Et donc, à partir du moment où, après ce travail extraordinairement difficile, hein, d'analyse des fluctuations autour de la solution, fluctuations quantiques, comme on dit, autour de la solution de Parisi, s'étant convaincu qu'il n'y avait pas de signe d'instabilité, il a cherché jusqu'au dernier jour de sa vie, il a travaillé jusqu'à ce que la maladie le terrasse, il a travaillé pour essayer de montrer est-ce que Fisher-Hughes ou est-ce que Cyrano ont raison ou n'ont pas raison pour un système réaliste. Ça a été sa préoccupation jusqu'à la fin. Donc, même pour quelqu'un comme Cyrano, très convaincu par les idées de Giorgio, les questions restaient. Je ne sais pas comment vous l'avez vécu, ou Francesco, mais vous êtes postérieur à ces interrogations. Mais nous avons été sans arrêt en but, admirant ce qu'avait fait Giorgio, mais pas nécessairement convaincu que c'était la réalité des situations expérimentales que l'on pouvait rencontrer. Il y a eu d'autres événements après.
Et... encore avant d'avancer, oui. Je pense que Francesco voulait...
Avant de passer à la suite, je voulais poser une question sur un aspect que tu as évoqué. C'était la relation avec les théories des jauges sur réseau. Parce qu'en fait, c'est quelque chose que tu as évoqué par rapport à cette école du 79 et que George aussi a évoqué plusieurs fois, qu'en fait, sa motivation pour étudier les modèles SCA, c'était les théories des jauges sur réseau. Mais je me suis toujours demandé, est-ce que c'est resté juste une motivation abstraite? Est-ce qu'il y a eu des échanges avec la communauté de la théorie des jauges sur réseau? Est-ce que...
Non, écoute, Francesco, il y a eu beaucoup d'échanges autour du projet APE, bien sûr. D'une certaine façon, la théorie de jauge sur réseau avait transformé la physique des particules quantitatives en un problème de mécanique statistique, si tu veux. C'était ça, c'était vraiment ça la nouveauté surprenante.
Mais avec des variables qui étaient quenched, disons.
Il y a eu des essais, par exemple... J'ai moi-même commis avec Jean-Michel Drouf un article sur les théories de jauge avec symétrie Z2, comme le modèle d'Ising. Donc, il y avait des essais. Balian et Drouf ont, Balian et Itzigson, dans une série d'articles de cette époque, des années 75-76, ont essayé d'appliquer les idées de théorie de jauge pour essayer de trouver les phases d'une théorie de jauge, le confinement, tout le monde essaie. Il y avait quand même une parenté idéologique d'où sort cette transition éventuelle entre une théorie confinée et une théorie non confinée, et on se demandait beaucoup si ça pouvait avoir des rapports avec les théories désordonnées, d'une certaine façon. Et je pense qu'il y a eu, alors je ne me souviens plus bien, mais il y a eu des gens qui ont essayé de faire des variables désordonnées, des champs de jauge. Donc, il y a une parenté idéologique certaine.
D'accord. Voilà.
Aussi, pour avant d'avancer dans le futur, même si vous êtes demeuré sceptique et même si vous n'avez pas commis de travail, comme vous dites, dans les années 80, il y a quand même une transition qu'on note vers le milieu des années 80 où vous commencez à être remercié énormément par la communauté, entre autres dans le livre de Mézard, Parisi et Virasoro, dans plusieurs articles de Cyrano. Comment est-ce que vous expliquez, quel était votre involvement, votre implication en tant que non-auteur à tous ces travaux?
Écoutez, alors j'ai un tout petit peu de mal à reconstituer vraiment mes souvenirs. Voyez, ma préoccupation principale était ailleurs, quand même, il faut que je le dise. Nous avions une théorie des phénomènes critiques superbes. En 1981, Wilson a un prix Nobel entièrement justifié, j'en suis très heureux, mais là encore, nous restons dans le doute pour savoir est-ce que c'est une théorie qualitative ou est-ce que c'est quantitative. Alors, nous utilisons dans cette époque, en particulier à Saclay, une image que nous avions apprise de l'école russe, de quelqu'un qui s'appelle qui n'est plus là, qui s'appelle Lipatov, pour essayer de comprendre que faire de la théorie des perturbations lorsqu'elle diverge aussi évidemment que pour le développement dimensionnel de Wilson et Fischer. Et donc, que faire de ce développement? Zinjustin, Le Guillou en feront beaucoup d'articles quantitatifs très beaux. Giorgio et moi, on commet même un article ensemble sur l'utilisation de cette méthode Lipatov pour essayer de comprendre la structure des bandes d'énergie dans des systèmes désordonnés continus. Donc, vous voyez, il y a quand même d'autres sujets de préoccupation. Et comme toujours, Giorgio qui sait intéressé à peu près à tous les problèmes ouverts de son époque, quels que soient les sujets, de l'immunologie à l'ornithologie, en passant par la géophysique et la physique, il s'intéressait à tout. C'est ce qui fait le charme de Giorgio, y compris son imagination extraordinaire. Donc, voilà. Et la difficulté de travailler avec lui, que vous avez peut-être expérimenté l'un et l'autre.
Mais pour revenir à la question, vous êtes quand même remercié dans plusieurs articles sur les brisures de réplique. Quel genre de support vous fournissiez
Le groupe travaillait bien, c'est-à-dire qu'on on discutait beaucoup entre nous, même si on travaillait pas nécessairement, on faisait pas nécessairement des calculs ensemble, mais les gens que j'ai cités, comme Zinjustin, Cyrano, Itzigson, Drouf, etc., tous ces gens-là. Bernard Derrida était plus isolé. Il avait d'autres contacts, autrement dit. J'admire beaucoup Bernard, hein, mais visiblement, c'est quelqu'un qui avait besoin de trouver son originalité ailleurs et autrement. Et il l'a gardé, je ne lui en veux pas à ce sujet. Mais vous voyez, donc, en gros, nous savions bien ce que nous faisions les uns et les autres. Donc, voilà. J'ai oublié de mentionner Descloiseaux, par exemple, qui était très intéressé par l'application au problème de polymère qu'avait initié Degène, etc. Donc, il y avait quand même une activité intellectuelle collective véritable. Okay. Après, le groupe a grossi un peu trop à mon goût. Je l'ai quitté en 1986, donc il y a maintenant beaucoup d'années. À cette époque-là, le groupe s'était fractionné. Et puis, le financement de la recherche a changé. Il y a eu des choses magnifiques comme l'ERC ou l'ANR en France qui ont fait que les gens sont plus individuels qu'ils ne l'étaient à mon époque, où nous étions plus collectifs.
Ok, je comprends. Vous parlez justement de votre transition de Saclay à l'ENS, où vous êtes, vous devenez en fait directeur du département de physique en même temps.
Oui.
Et à ce moment-là, vous vous mettez à avoir un certain pouvoir, même politique et financier, sur la recherche, du moins locale. Est-ce que vous avez...
Financier, non, parce que les laboratoires étaient financés par le CNRS et le CNRS ne reconnaissait pas cette structure département. Alors que justement, mon but en venant à l'école normale était d'essayer de se dire, dans un modèle internationalement bien plus fréquent, que nous étions tous physiciens. Si vous voulez, il y a une image qui nous a tous frappés, physiciens, qui est l'image idéale. Pour moi, l'image idéale, elle était venue de deux personnes, deux géants du XXe siècle, qui étaient Feynman et Landau. Feynman et Landau étaient des gens qui considéraient que si on faisait de la physique théorique, on devait tout comprendre. Et donc, on était capable de tout comprendre et qu'il n'y avait pas de problème qui devait vous échapper, que si un problème se posait, il fallait être capable de s'y attaquer. Et les gens dont nous parlons, comme Polyakov ou Giorgio Parisi, étaient des gens, je dirais, influencés par cette image qui était « moi, je ne suis pas un spécialiste de tel problème ». Et je trouvais qu'en venant à l'école normale, c'était pour moi, j'étais très bien à Saclay, hein, je n'y avais que des amis, mais je trouvais que c'était pour moi une façon d'essayer de comprendre d'autres regards sur la physique que le mien. Et ça m'a beaucoup plu d'avoir cette responsabilité pendant 4 ans, hein, je n'ai pas fait ça longtemps. Après, j'ai accepté d'autres responsabilités à tort, sans doute, mais voilà. Voilà l'idée de cette transition. En venant à l'école normale, je n'ai pas travaillé sur les vers de spin. Il y avait des gens très actifs dans le domaine, comme Gérard Toulouse. Pomo était venu en même temps que moi de Saclay. Il ne s'intéressait pas aux vers de spin, mais il a eu une grande influence sur la physique statistique à l'école normale. Jean-Vanny Menus, Jean-Pierre Nadal s'intéressaient donc au réseau de neurones. Et donc, il y avait une activité importante à l'école normale. Il se trouve que, pour des raisons un peu accidentelles, le travail dont je vous parlais tout à l'heure sur les diagrammes planaires que nous avions fait avec Hitzigson, Parisi, Zuber, a eu une influence sur une vision discrétisée de la gravitation quantique bidimensionnelle, c'est-à-dire le modèle des cordes bosoniques de Polyakov. Excusez-moi, tout ça est un peu abscon, mais ce vieux travail nous permettait d'avancer, et avec quelqu'un qui était venu de Moscou nous rejoindre, qui s'appelle Kazakov, nous avons fait un travail sur l'utilisation de ces modèles matriciels pour comprendre la limite continue de triangulation dynamique de surface aléatoire, c'est-à-dire la théorie des cordes bosoniques. Donc, c'est sur ça que moi, j'ai travaillé. Cela dit, je restais un peu à l'écoute. J'ai été très impressionné lors d'une réunion à Rome, organisée sûrement par Giorgio, dans laquelle il a fait venir Francesco Guerra, qui était bien connu en physique mathématique. Et Francesco nous a exposé des inégalités nouvelles qui étaient très proches de la solution de Parisi. Après ça, il y a eu un article de Michel Talagrand les mathématiciens que je rencontrais me disaient, ça y est, nous les mathématiciens avons démontré les choses. Mais le premier article de Michel Talagrand était un article dans lequel il montrait que la solution de Sherrington-Kirkpatrick était valable à haute température. Et ça, je dois dire, ça nous laissait un peu froid. On se disait, mais enfin, les mathématiciens sont en train de redécouvrir le fil à couper le beurre. Et puis, quand Talagrand a réussi à montrer que, à basse température, la solution de Parisi, au moins pour l'énergie libre, était valable, on s'est rendu compte que, finalement, les mathématiciens avaient fait un grand pas et que Giorgio, évidemment, avait eu, bien avant tout le monde, la bonne idée. Ce qui m'a beaucoup impressionné aussi dans les séminaires que j'entendais à l'époque, c'est la descendance de cette théorie de brisure de symétrie de réplique sur toutes sortes d'autres problèmes. Il y avait tous les problèmes de réseaux de neurones, et puis il y avait tous les problèmes dont j'entendais parler sur dont nous parlaient mes collègues comme Semerjian, Mézard bien sûr en premier, etc., sur l'application de ces mêmes idées à d'autres problèmes désordonnés que le problème des verres de spin. Et donc, progressivement, j'ai fini par me rendre compte que cette image avait, dans l'histoire des développements de la physique statistique, une importance essentielle. Donc, j'avoue, je mange mon chapeau, comme on dit en français, mais je reconnais entièrement mes torts.
C'est pas nécessaire du tout. Mais je vais, avant de sauter encore dans cette période-là, je vais poser une dernière question à propos des années 80 et début des années 90, où vous vous mettez à avoir plus de pouvoir politique, du moins.
Oui.
Et je veux savoir de ce que vous pouvez nous dire. Avez-vous eu la chance ou de mettre, disons, un peu le doigt dans la balance pour aider la mécastat, les répliques à quelques occasions ou
non,
si...
parce que j'avais pris des responsabilités, comment dire, trop ambitieuse pour pouvoir être réellement actif. C'est une leçon que j'ai apprise sur le tard. Autant quand j'étais, les quelques années où j'ai été directeur du département, j'ai le sentiment d'avoir eu des initiatives positives, comme par exemple la création de ce qu'on appelait le laboratoire de physique statistique, avec des théoriciens, des expérimentateurs qui me paraissaient une nécessité pour l'époque. Donc, je suis content d'avoir pu contribuer à faire cela. Autant, après, à la demande du ministre de l'époque, qui était un physicien, qui s'appelait Hubert Curien, j'ai accepté d'être président du conseil d'administration du CNRS dans son ensemble. Alors, bon, il ne s'agissait plus d'être physicien, mais il s'agissait de comprendre ce qu'on pouvait attendre du CNRS. Et c'était pas un poste, j'avais gardé mes fonctions d'enseignant et même de recherche quand j'y arrivais, mais surtout j'avais une vision dans laquelle je trouvais que progressivement le CNRS et l'université devaient se fondre et s'aider mutuellement. Je connaissais un exemple qui m'avait beaucoup frappé, qui était l'exemple d'un chimiste célèbre à Strasbourg qui s'appelle Jean-Marie Lène, prix Nobel de chimie, magnifique. Et Jean-Marie Lène considérait que si on voulait travailler avec lui, on devait oublier son passeport d'origine. J'entends par passeport non seulement la nationalité, mais le fait de savoir si on était enseignant ou chercheur. Il considérait qu'il y avait un groupe qui était le laboratoire, que ce groupe avait une mission d'enseignement et une mission de recherche, et que, compte tenu des nécessités du temps, d'une donnée déterminée, on devait partager, au mieux pour tous les intérêts collectifs, ces nécessités. Donc, il me semblait que ce qu'on appelle au CNRS les unités mixtes de recherche devaient s'imprimer progressivement dans un modèle de cette nature. je me suis fait rejeter par tous les pouvoirs établis, aussi bien du côté du CNRS et de l'université. Et j'ai regretté beaucoup, finalement, d'avoir pris des responsabilités au CNRS, car j'ai eu l'impression, au mieux, d'arriver à le protéger contre des ministres un peu fous. Nous en avons eu. Et au pire, de ne rien faire. Donc, ceci n'a pas été une vraie réussite dans mes responsabilités. J'en ai eu d'autres de nouveau plus tard avec l'Académie des sciences, où j'ai eu des responsabilités dans les années 2004-2005, où il y avait un grand mouvement de protestation des chercheurs qui s'appelait « Sauvons la recherche », dans lequel tous les chercheurs, et moi compris, étions convaincus que le soutien que donnait la France à sa recherche était très médiocre en comparaison des voisins de l'Europe du Nord, de l'Allemagne, de l'Angleterre, etc. Et alors que le gouvernement avait tendance à considérer qu'il s'agissait de braillards dans la rue, nous avons essayé d'utiliser ce pouvoir que nous donnait, ou cette vision que nous donnait l'Académie, pour pouvoir porter au gouvernement l'idée qu'on ne pouvait pas continuer de la même façon. Et là, pendant un certain temps, nous avons été écoutés. Donc voilà le bilan de ces périodes de pouvoir, comme vous dites, qui n'ont jamais été de vrai pouvoir, en tout cas de pouvoir être entendu parfois.
Vous avez tout de même, en 2004, publié un livre qui s'appelle « Demain la physique », qui est une vraie vulgarisation. Et puis, une chose que j'ai remarqué dans cet ouvrage-là, c'est qu'il y a quand même une section significative sur les systèmes désordonnés et les vers. Donc, je voulais savoir si ce n'était pas un peu votre suggestion, votre influence que ça s'y retrouve.
Ah oui, ce livre, oui, nous sommes un certain nombre à avoir été les rédacteurs. Si vous voulez, pour que je précise le contexte, c'est un peu une réaction d'irritation due à des phrases un peu sommaires de collègues biologistes. Ils ne sont pas tous comme ça, et comme tout le monde, j'admire les progrès extraordinaires de la biologie contemporaine, il n'y a aucun doute, mais certains d'entre eux considéraient de manière sommaire que la physique était la science du passé et la biologie la science de l'avenir. Et même des amis à moi, dont je ne citerai pas le nom, avaient tendance à penser des choses comme ça, qui avaient été physiciens brillants et qui disaient « mais qu'est-ce que vous faites dans ce domaine ?» Donc, nous avions essayé, certain nombre d'entre nous, d'essayer de dire ce qui nous paraissait des grands problèmes ouverts de la physique qui n'étaient pas des détails. Et en particulier, les systèmes désordonnés en faisaient partie, bien sûr, mais il y en avait bien d'autres. Je me souviens d'Alain Spey essayant d'expliquer ce qu'il appelait à l'époque, le terme a été repris depuis, la deuxième révolution quantique, etc. Donc, nous étions face à quand même une physique qui ne me paraissait pas dormante, quand bien même l'interaction physique-biologie était et reste extrêmement importante, bien sûr. Voilà le contexte de ce livre.
Mais donc, on peut dire que c'est quand même un peu votre influence, la présence des milieux désordonnés dans cet ouvrage ou...
Oui, je pense. Et puis, mon influence, et il se trouve que je connaissais Madame Jacob, éditrice célèbre, pardon, qui avait accepté de publier ce livre, de sorte qu'il a eu un peu plus de visibilité que les livres des physiciens ordinaires. Voilà.
Donc, pour revenir maintenant à votre réinvestissement dans la théorie des répliques, qui débute vers la fin des années 90, vous pouvez décrire un peu votre cheminement intellectuel qui a permis de se réintéresser à ce domaine-là. Pouvez-vous élaborer un peu sur comment ça s'est passé?
Non, mais je n'ai stricto sensu je n'ai pas travaillé sur la brisure de symétrie des répliques, mais je me suis intéressé sans grand succès à d'autres systèmes désordonnés, comme par exemple le modèle d'Ising en champ aléatoire. C'est un autre exemple de système désordonné pour lequel, à la suite des travaux de nombreuses personnes, Imri, Ma et puis Parisi-Sourlas, il y avait une magnifique solution que malheureusement, alors ça c'est un exemple vraiment extraordinaire, il y avait beaucoup d'interrogations sur ce qu'impliquait cette vision qui s'appelle la réduction dimensionnelle pour un système réaliste tridimensionnel. Et le problème a été réglé, je dirais, par la physique mathématique. C'est l'un des rares exemples que je connais où une question ouverte a été tranché par un travail d'un physicien mathématicien qui s'appelle John Imrie, qui a démontré que à trois dimensions, il existait une transition de phase dans le modèle d'Ising en champ aléatoire, ce qui contredisait l'image de la réduction dimensionnelle. Donc, ça avait été un sujet important. J'ai travaillé dessus, en particulier avec Cyrano de Dominicis, on s'est intéressé, on a essayé de trouver s'il y avait des phénomènes dynamiques marquants qui pouvaient expliquer une brisure de l'approche vers l'équilibre traditionnel. Voilà, donc ça a été par cet intermédiaire, en quelque sorte, que j'ai un peu travaillé sur des systèmes désordonnés, mais pas beaucoup réellement, pas beaucoup. Voilà.
Une autre question un peu plus vague cette fois-ci. Vous êtes parmi les physiciens français un de ceux qui a fait le plus d'allers-retours entre les États-Unis et la France pendant toutes ces années. Est-ce que vous avez une impression de comment les idées de brisure des répliques étaient reçues aux États-Unis à cette époque? Est-ce qu'il y avait une perspective américaine ou il n'y avait que des perspectives individuelles sur ce travail?
Écoutez, je n'en ai jamais parlé directement avec Phil Anderson, qui était vraiment le grand homme du domaine, qui avait une tendance à considérer qu'il avait tout inventé dans tous les domaines. C'était un peu son défaut, mais enfin, c'était un authentique grand homme néanmoins. Et je ne sais pas comment il considérait la brisure de symétrie des répliques. Il considérait quand même que les systèmes désordonnés étaient l'archétype des modèles du futur, hein, de beaucoup des questions ouvertes en physique statistique. En revanche, je dirais, les physiciens des hautes énergies qui s'étaient intéressés à la physique statistique pendant un certain temps, et je vais citer des grands comme Polyakov, Zamolodchikov, ne se sont pas du tout intéressés à la brisure de symétrie des répliques. Je ne crois pas. Je pense qu'ils ont trouvé que c'était trop ésotérique pour leur goût. Ils ont laissé ça. Je n'ai pas de souvenir dans la grande école de Harvard à l'époque où il y avait des gens comme Sidney Coleman, Weinberg, etc., que ces gens-là soient intéressés du tout à ce sujet. Le groupe de renormalisation les avait intéressés beaucoup, mais pas ce sujet-là. Je ne sais pas très bien ce qu'en pensaient les grands de la physique de la matière condensée, qui est des gens comme Bert Alperin ou David Nelson. David Nelson, Bert Alperin faisait vraiment de la physique des solides, et même s'il comprenait tout, je ne crois pas qu'il ait travaillé sur la brisure de symétrie des répliques. David Nelson s'intéressait quand même beaucoup aux phases avec des lignes de désordre. Il y a des travaux assez beaux, très beaux, sur les faces de Frank Casper par David Nelson, etc., mais pas sur la brisure de symétrie de réplique, ou pas à ma connaissance. Donc, je dirais que il n'y a pas eu un écho considérable, pas autant qu'en Europe, où il faut lire l'influence personnelle de Giorgio sur toute l'école de Rome, qui ensuite a disséminé dans toute l'Europe, y compris Paris, heureusement, a été extrêmement marquante. Donc, je pense que ça, ainsi que l'opposition de Fisher et Hughes, qui a dû influencer beaucoup la physique américaine, ont laissé la brisure de symétrie des répliques un peu plus comme un sujet européen qu'américain. Peut-être que je caricature, mais voilà la vision que j'en ai, moi, vu d'ici.
Merci. Juste quelques petites questions pour conclure. Dans une entrevue pour...
Une question sur la relation avec les États-Unis. Il y a eu en effet, il y a eu quelqu'un aux États-Unis qui s'est intéressé à la brisure de la symétrie des répliques. C'était en fait Peter Volines avec Patrick et Dave Tiromalai qui ont pris un peu les idées de Verdespin aux années 86-87 pour formuler une théorie de Ver. Et est-ce que de ces côtés, disons, de l'Atlantique, est-ce qu'en Europe, les gens à l'époque étaient à connaissance de ces efforts? Est-ce qu'il y avait des échanges? Est-ce que c'est quelque chose qui a...
Écoute, Francesco, je crois qu'il faudrait poser vraiment la question à quelqu'un qui était au cœur de ce domaine. Moi, j'étais trop périphérique pour te répondre de manière honnête à la question. Je connais le travail dont tu parles, mais je l'ai connu bien plus tard, accidentellement. À l'époque, est-ce que les physiciens ici étaient conscients? Est-ce que Cyrano était conscient de ce travail? Peut-être, mais je ne le sais pas. Il était en fréquente relation avec l'école allemande, lui, mais évidemment Budapest. Mais je ne sais pas. Je ne crois pas. Mon sentiment était que Europe et États-Unis étaient quand même assez séparés à cette époque sur cette question particulière de la brisure des répliques.
Merci.
Bon.
Dans une entrevue pour l'Académie en 2011, vous avez mentionné qu'une de vos grandes joies dans votre expérience de scientifique, c'était l'enseignement.
Oui.
Est-ce que vous avez eu la chance d'enseigner du matériel sur la brisure des répliques à un quelconque moment? Ou si oui, dans quel contexte?
Alors, j'ai enseigné beaucoup de cours traditionnel, habituel, introduction à la mécanique quantique, à la mécanique statistique. J'ai enseigné dans ce qu'on appelait le DEA à l'époque, M2 aujourd'hui. J'ai enseigné beaucoup théorie des champs et groupes de normalisation. La brisure de symétrie des répliques était donc un sujet trop spécialisé pour ces cours-là. Néanmoins, il m'est arrivé de faire des cours. Quand j'ai été à la retraite de l'enseignement ici, au bout de quelques temps, je me suis rendu compte que, après tout, j'aimais bien enseigner. J'ai commencé à enseigner, mais beaucoup à l'étranger. J'ai enseigné dans des endroits. À Canton, par exemple, à plusieurs reprises, à Hong Kong, même une fois à Rome, où j'étais accidentellement avec Francesco, on était ensemble. Mais j'ai mentionné les répliques et la brisure des répliques dans quelques-uns de ces cours, mais je crois que je ne suis jamais allé jusqu'à exposer complètement la solution de Parisi. J'ai mentionné le paramètre d'ordre d'Edward Anderson, le fait que c'était la chose centrale de la solution de Parisi, mais jamais le détail de la solution.
OK.
Voilà.
Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre de cette époque dont on n'a pas touché que vous voudriez partager avec nous avant qu'on termine?
Écoutez, je vous disais d'entrée de jeu que moi, j'ai trouvé extrêmement profitable d'avoir une vision qui n'était pas ni mécanique statistique exclusivement, ni théorie des champs exclusivement. J'ai trouvé que l'interaction m'a été très profitable et quand je regardais des gens comme Parisi, Polyakov, etc., je me disais, je ne suis pas le seul. Au bout d'un certain temps, les disciplines se sont largement redivisées quand même, mais il y a des domaines dans lesquels je pense que cette interaction est restée fructueuse. Je pense d'abord à l'existence de phases topologiques de la matière, dans lesquelles ces concepts topologiques, aussi bien en théorie des champs qu'en physique statistique, ont joué un rôle central. Cette fois-ci, je pense c'était quoi, le prix Nobel d'il y a 2 ans, hein, fort justifié à ce sujet de Saarless et de Alden, etc., Kosterlitz. Il y a eu d'autres domaines dans lesquels, si je regarde les travaux de Subir Sachdev à Harvard, qui a beaucoup essayé d'utiliser les idées nouvelles de couplage fort, couplage faible, issues de la dualité jauge-champ, issues des lointains de Maldacena. De la même façon, les travaux de Kitaïev, aussi bien sur des systèmes désordonnés que sur l'intrication quantique et les bornes sur l'entropie et les trous noirs, me semblent aujourd'hui encore justifier qu'il y ait des gens qui aient une vision large. Et donc, quand il m'arrive parfois encore de parler à des gens plus jeunes, je continue à penser que il y a place, et même une bonne place, pour des idées originales, pour des gens qui ont une vision qui dépasse la spécialité explicite auquel trop de gens se sentent confinés ou se croient confinés. Voilà mon
Réflexion.
réflexion personnelle.
Et finalement, une question technique. Est-ce que vous avez gardé des notes, des papiers de la correspondance de cette époque? Et si oui, est-ce que vous avez un plan pour les déposer dans une archive académique éventuellement?
Non, j'ai déménagé et le déménagement a fait que tout a été perdu. Je crois pas avoir de lettres intéressantes à conserver. C'est vrai que j'ai eu des échanges intéressants, mais beaucoup ne sont même pas dans du papier, étaient face à des tableaux noirs. Bon, c'est trop long de vous raconter ça, mais j'ai des exemples qui me tiennent à cœur de discussions, quelquefois où j'ai eu tort, quelquefois où je n'ai pas eu tort, qui restent pour moi des souvenirs importants. Voilà.
Mais rien d'archivable.
Rien d'archivable, oui. Par exemple, j'ai souvenir d'avoir été convié une fois à une petite conférence organisée à San Francisco. Je crois que c'était Sidney Coleman qui était l'organisateur, quelqu'un que j'admirais énormément. Il y avait 25 personnes, là encore pour la plupart des physiciens des particules, et Sidney avait invité Feynman. Donc, je peux vous dire que tous les gens qui faisaient un séminaire, David Grosse et compagnie, et moi compris, parlant devant Feynman, on est assez terrorisé. Et je dois dire que, après mon séminaire, le fait que Feynman vienne me parler de ce que j'avais dit a été pour moi un des moments les plus forts de ma vie de physicien. Mais il était gentil et positif. Donc voilà, il y a des souvenirs comme ça, mais Ils sont nulle part, ils sont dans ma tête.
C'est de très belles histoires. Merci beaucoup.
Je vous en prie. Merci Patrick, merci Francesco de m'avoir écouté.
Un plaisir.
Au revoir.